Bonjour, bonjour, de retour pour notre émission La Réunion des Religions. Je suis en compagnie de mon ami Mendel Simboni qui représente les communautés juives et qui est le grand rabbin de La Réunion. J'ai à côté de moi le père Payette, bonjour mon père, bonjour. Qui exerce en quelle église encore ?
Notre-Dame de la Délivrance.
À la Délivrance. Et notre imam Mohamed Bana qui lui exerce sur Saint-Denis. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va concerner les compagnons. Les compagnons de toutes les religions. Donc nous savons bien que du côté des Juifs, nous avons Moïse, nous avons Josué, dont nous allons parler parce qu'il faudra développer la chose, hein. Chez les chrétiens, nous avons Pierre, nous avons Judas, nous avons un tas de monde, des compagnons, on va dire, c'est pas des compagnons, on les appelle les apôtres.
Les apôtres, les disciples, après si on considère d'autres personnages comme Timothée, Silas sont des compagnons, mais de l'apôtre Paul.
Et donc on va peut-être aborder l'histoire des évangiles, pourquoi ça s'appelle de telle manière, hein, on verra ça. Et ensuite on ira voir aussi les compagnons, là, par contre, est-ce qu'on appelle bien les compagnons? En français c'est les compagnons, en arabe c'est
les sahabes.
Les sahabes.
Sahabis en au singulier.
Les sahabis. Et des sahabas et un sahabi, donc on verra quel rôle ont joué ces personnes, parce que un prophète c'est une chose. Et puis avoir des bras droits, des bras gauches, on va dire, qui sont là pour ensuite continuer à faire évoluer, à faire progresser une religion. Parce que ces hommes-là, ces personnes-là, à un moment donné, elles sont mortes. Et quel rôle elles ont pu jouer? Quel rôle elles continuent à jouer dans la vie de chacun? Parce que on suit une façon de vivre, mais on se dit oui, mais telle personne a fait telle chose à tel moment. Et c'est pourquoi je vais commencer avec les plus anciens, on va dire, hein, c'est remonter chez les Juifs, qui, selon ce que l'on sait, a été la première religion et qui a ensuite fait progresser vers Jésus et Mohammed. N'est-ce pas, mon ami le rabbin?
Bonjour à tous. Oui, effectivement, ça, c'est pas moi qui vais le dire, mais oui, je pense que les deux autres religions sont arrivées bien après, donc oui. Forcément, mais même que ça soit dans le christianisme ou dans l'islam, les prophètes sont reconnus partout. Moshe, Moussa, ou même les prophètes d'après, Josué, Eliaou, Shmuel, Samuel, c'est des prophètes qui sont dans la Bible, donc forcément, en tant que religieux, quand on est croyant, on y croit.
Donc le premier, on va dire, dans la religion juive, c'était Moïse.
Le premier prophète,
oui,
qui a prophétisé pour le peuple, c'est Moshe. Parce qu'avant Moshe, il n'y avait pas vraiment de peuple juif, peuple hébreu. Il y avait une famille, c'était une famille d'Abraham, Isaac, Jacob, avec ses 12 enfants. Qui après, ils étaient plein d'enfants, mais ça restait une famille, avec les 12 tribus, on va dire, 12 familles qui se retrouvaient. Il n'y avait pas une révélation de Dieu au public, à toute la famille, on va dire. Il y avait une révélation, bien sûr. Abraham, Isaac, Jacob, ils parlaient à Dieu. C'est une forme de prophétie aussi, d'échanger avec Dieu. Mais ce n'était pas une prophétie en tant que tu vas annoncer à tout le monde telle et telle prophétie. Donc effectivement, le premier dans l'histoire, dans la Bible, c'est Moshe, où Hachem va se révéler à lui.
C'est la Bible ou la Torah?
La Torah.
Donc pour toi, la Bible et la Torah, c'est...
La Bible, c'est la Torah en français, non?
Oui, on peut dire ça comme ça.
Oui, d'accord. Ok, non, parce que pour moi...
Après, oui, je peux dire la Torah, mais c'est parce que je veux dire parler en français.
Ça dépend si tu dis la Torah pour toi, est-ce que c'est les cinq premiers livres ou c'est au plus...
La Torah, c'est les cinq premiers livres que je pense. Mais la Torah, c'est pas que les cinq premiers livres, c'est Tanakh, en fait. Donc c'est aussi les prophètes, les rois, les histoires d'après. Donc quand on dit la Torah, ça englobe tout, en fait. Et la Bible aussi.
Ok, très bien.
Donc, c'est vrai que Moshe, c'est le premier dans la Torah à avoir une révélation d'Hachem, mais pas pour lui, pour annoncer quelque chose au peuple. Abraham, il a une révélation de Dieu. Isaac, Jacob, Dieu se révèle à eux pour leur parler, pour leur annoncer, pour les bénir, pour leur dire des directives dans leur vie. avec Abraham, le premier, où la Torah elle commence l'histoire d'Abraham, c'est quand Dieu se révèle à lui. Toute l'histoire d'Abraham, d'avant la révélation de Dieu, c'est pas écrit dans la Torah. C'est écrit dans d'autres livres, mais dans la Torah elle-même, dans les textes du premier livre, la Genèse, c'est pas écrit. Parce que Dieu s'est pas encore révélé à lui. Mais c'est une révélation personnelle où Dieu lui donne des instructions à lui personnellement. Le premier à avoir une prophétie pour aller la dire au peuple, la répéter au peuple, c'est Moshe. Et aussi, Moshe, c'est la même chose. La première fois que Dieu se révèle à lui, c'est bien plus tard dans sa vie, on va dire, une fois qu'il a presque 75 ans.
Ah ouais, quand même ça.
À peu près, ou 80 ans. Où Dieu va se révéler à lui pour la première fois. Lui-même, c'est la première fois, il découvre. Il avait la foi en Dieu. Il avait la foi parce qu'il venait du peuple hébreu, qui avait transmise cette foi au fur et à mesure des générations depuis Abraham. Même si beaucoup d'Hébreux l'avaient oublié, mais lui faisait partie de la famille de Lévi, qui n'avait pas oublié la foi en Dieu, donc bien sûr qu'il croyait en Dieu, mais il n'avait jamais pensé avoir une révélation de Dieu. Dieu va lui parler à lui. Donc effectivement, il y a toute l'histoire dans la Bible où Dieu se révèle à lui à travers le buisson ardent pour la première fois, et donc il découvre la prophétie.
D'accord, et... Donc là, moi, j'ai des noms que j'ai été chercher, bien sûr. J'ai Aaron et Myriam. Alors, qui sont ces personnages? Parce que ils sont
Aaron
et Myriam. Il semblerait qu'ils ont joué un rôle dans la sortie d'Égypte.
Bien sûr, ils ont joué un rôle très important.
Et ils faisaient quoi?
Alors, comme j'ai expliqué, à ce moment-là, donc les Hébreux qui vivent en Égypte, qui sont devenus esclaves au fil des années. Il y a une seule tribu qui n'est pas esclave, c'est la tribu de Lévi. D'ailleurs, des 12 frères, c'est le dernier à être décédé, c'est Lévi. D'accord. Et Lévi l'a réussi à transmettre à sa tribu, à ses enfants, de continuer dans la foi de Dieu et de ne pas oublier. Donc eux, quand Pharaon prend les Hébreux en esclaves, eux, ils ne sont pas pris en esclavage. Ils arrivent à ne pas se faire prendre au piège et ils continuent dans la foi en Dieu. Le chef un peu de la tribu de Lévi, une fois que le monsieur Lévi, le père, est décédé, c'est Amram, le père de Moïse, Aaron et Myriam. Myriam, c'est la plus grande, ensuite c'est Aaron, et Moshe, c'est le troisième frère, le dernier. Donc, Amram, c'est un peu le guide spirituel à ce moment-là. Indirectement, c'est pas un prophète.
Oui, oui.
Peut-être que Dieu se révèle à lui, certainement, mais il n'y a pas une. C'est pas Dieu, il ne dit pas des prophéties pour que là, il le dira à tout le monde. Mais. Tous les Hébreux s'attachent à lui pour... voilà, c'est un peu leur guide spirituel. C'est lui qui va les encourager, etc. Donc Amram, il a déjà ce rôle. Automatiquement, ses enfants, Myriam et Aaron aussi, continuent dans leur chemin de la tribu de Lévi en général et de leur père. Donc eux, ils ne sont pas en esclavage en plus. Donc c'est un peu les guides, ceux qui vont aller parler au peuple d'Hébreux, les encourager à tenir le coup avec l'esclavage. Moshe, ensuite, il va naître. Ça va être le troisième frère. Et finalement, Hachem va choisir Moshe pour être le prophète et celui qui va libérer le peuple juif. D'ailleurs, Moshe, il ne comprend pas, il dit « Prends mon frère il est plus grand que moi, pourquoi moi ?» Effectivement, finalement, Dieu va lui dire « Ok, je vais prendre aussi Aaron qui va t'accompagner pour être ton traducteur, il va être avec toi, il va t'accompagner. » Donc, c'est une famille, Amram, Myriam, Aaron et Moshe, ensemble, ils vont transmettre au peuple hébreu.
Donc son frère et sœur, hein,
son frère et sœur, c'est trois frères et sœurs. Okay. Myriam, c'est la grande, Aaron le deuxième, et Moshe qui va naître après. D'ailleurs, c'est Myriam qui va s'occuper du bébé pour le cacher dans le Nil, et finalement quand la fille de Pharaon va le retrouver, c'est elle qui va être à côté pour lui dire ah, je crois que je connais la maman. C'est son frère, c'est sa mère,
ouais, mais c'est sa mère, d'accord,
voilà. Ouais. Et elle va faire comme si que
incroyable cette histoire,
elle sait pas c'est qui. Et comme ça, bon, après Moshe va grandir, il va devenir le prophète. Donc quand Moshe, toute une histoire, parce que c'est à 80 ans, donc entre 80 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais quand il revient ensuite en tant que prophète en Égypte, comme Dieu s'est révélé à lui, donc là il revient, c'est plus le même homme, c'est le prophète. Et là, bien sûr, Myriam et Aaron se mettent de retrait, et c'est Moshe qui va prendre le leadership, le prophète, mais avec toujours l'accompagnement de sa sœur et son frère qui vont être là pour l'accompagner, surtout Aaron. Mais aussi Myriam, parce qu'on voit par exemple quand la mer rouge elle va s'ouvrir, la mer elle va s'ouvrir en deux, tous les juifs vont traverser la mer justement à la sortie d'Égypte. Myriam de son côté va aussi prendre les femmes à part et chanter pour remercier Dieu, et Moshe de son côté. Donc on voit que chacun avait quand même son rôle, même si que Moshe c'était le prophète. Le premier.
On apprend ou on réapprend l'histoire. Donc on va progresser un petit peu et on va arriver chez les chrétiens, les catholiques, Et donc, on appelle... C'est quoi la transfiguration? Parce que là, j'ai retrouvé ce mot-là. Et il y a une moto qui passe. Bon, ça, c'est normal. Ça, c'est direct. Qu'est-ce que la transfiguration, mon père? Et quels apôtres étaient présents à ce moment-là?
Oui, alors peut-être déjà pour commencer... Pour préciser un petit peu dans notre la foi chrétienne, on va dire, on ne considère pas Jésus comme un prophète, on considère Jésus comme le Fils de Dieu et le Messie. Donc, Messie que les Juifs attendent, nous reconnaissons Jésus, Yeshua, le Messie, et donc comme Fils de Dieu. Et dans la foi chrétienne, Jésus est une personne qui possède deux natures, une nature éternelle, à savoir, il est fils de Dieu, donc il est Dieu. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui, pour lui, ça va être aussi un peu un objet de scandale et de difficulté avec ses co-religionnaires juifs, parce que comment un homme peut dire qu'il est fils de Dieu ou se faire Dieu? Non. Et donc il est Dieu, et donc il possède la divinité par nature. Et ce que nous célébrons à l'Annonciation le 25 mars, c'est l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie, la mère de future mère de Jésus, qu'elle serait justement mère de ce fils de Dieu qui deviendrait homme, qui prendrait la nature humaine également. Et donc, et à Noël, on célèbre la naissance du fils de Dieu, qui est aussi fils de l'homme, puisqu'il devient vrai Dieu, il est toujours vrai Dieu et vrai homme. Et c'est fondamental parce que c'est comprendre que pour le chrétien, Jésus est vrai Dieu, vraiment Dieu, et il est vraiment homme à la fois. Il a les deux natures. Quand à la transfiguration, c'était d'ailleurs c'est intéressant parce que la transfiguration survient quelques jours, à peu près 6 jours après que Jésus a demandé à ses disciples, eh bien, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Il y en a qui disent ben un prophète comme Élie, peut-être c'est Élie qui serait revenu, ou Jean le Baptiste qui serait ressuscité, ou Jérémie, ou un autre prophète. Et Jésus demande à ses disciples, aux 12 apôtres, « Et pour vous, qui suis-je ?» Et Pierre, à ce moment-là, répond, « Tu es le Christ, donc le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À ce moment-là, Jésus lui répond, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire ce n'est pas la raison humaine qui t'a révélé cela, mais mon Père, donc Dieu, et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. »
Donc il a utilisé son nom.
Alors je bâtirai mon église, donc tu es Simon, il l'appelle, surnomme, il lui donne un nouveau nom, Pierre, on dira Simon-Pierre des fois, on dira Pierre simplement.
D'accord.
Et je bâtirai mon église, c'est un jeu de mots, avec la pierre, le rocher, et les puissances de la mort ne pourront rien contre elle. Donc Jésus fonde sur la foi de Pierre, qui croit que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, fils de Dieu, le Messie, son Église. L'Église est bâtie sur la foi de Pierre. Les puissances de la mort ne pourront rien contre elle. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, c'est... Après, c'est la petite anecdote, c'est que, aussitôt après, Jésus commence à annoncer à ses disciples que le fils de l'homme qu'ils attendent, c'est pas le fils de l'homme avec un roi qui va chasser les Romains, etc. Mais il va être arrêté, souffrir beaucoup, sa passion, être mis à mort. Et Simon-Pierre, aussitôt après avoir fait cette belle profession de foi, eh bien, dit, non, 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 ça t'arrivera pas, Dieu t'en garde. À ce moment-là, Jésus se retourne, il a vu les autres disciples qui regardaient, qui écoutaient, il lui dit, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tu es pour moi un obstacle. C'est-à-dire que Jésus replace tout de suite Pierre en disant, dès lors que tu cesses d'écouter Dieu qui te parle, tu raisonnes comme un humain et tu deviens un obstacle à la mission pour laquelle je suis venu. Alors, je fais le saut maintenant 6 jours plus tard. Si Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean, les disciples les plus proches de lui, sur une montagne au Tabor, et là, il apparaît transfiguré, c'est-à-dire que son visage, un peu comme Moïse dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, quand il s'entretenait avec Dieu, avait le visage rayonnant.
Il a le visage. La montagne avec les...
Voilà. Il a le visage rayonnant, comme le soleil, les vêtements plus blancs qu'aucune blancheur sur la terre. Et en fait, Jésus leur apparaît dans la gloire divine, dans sa nature divine, quelque part.
D'accord.
Et ils sont comme tétanisés, ils se prosternent, on reprend des catégories de l'Ancien Testament. Et à ce moment-là, une nuée les enveloppe, et du sein de la nuée, la voix de Dieu, le Père, se fait entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Auparavant, avant cela, quand ils avaient vu Jésus transfiguré, c'est-à-dire changé, le visage est transformé, était apparu avec lui Moïse, justement, et Élie, qui s'entretenaient avec lui des événements qui vont se passer. Et Simon-Pierre de dire « Heureux, il est bon d'être ici, faisons trois tentes, une pour Moïse, une pour Élie, une pour toi. » Et à peine a-t-il dit cela que cet épisode de la nuée, la voix qui se fait entendre, qui révèle Jésus comme étant le Fils de Dieu, pour réconforter aussi la foi de Pierre, finalement, comme une confirmation, 6 jours plus tard, a été manifestée à ce moment-là.
Donc la transfiguration a été faite à l'époque où c'était les Juifs qui étaient plus dominateurs, enfin, qui étaient plus...
Les Juifs étaient Juifs à ce moment-là.
Voilà, tout le monde était Juif à ce moment-là.
Les premiers chrétiens sont des Juifs.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Jésus, de naissance, est Juif. Et ensuite, il a eu la transfiguration, il a eu le message, et là, il a transformé...
La transfiguration, c'est pas ça qui fait que Jésus ne devient plus juif.
C'est un
événement qui permet, en fait, on dit pourquoi Jésus apparaît à ses disciples, ses trois disciples, transfigurés. Parce que qu'est-ce qui va se passer plus tard? De quoi parlent Moïse et Élie? Ils parlent de ce qui va se passer à Jérusalem, quelques jours, quelques semaines plus tard.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem?
La crucifixion.
Ah, voilà.
Ce qui va se passer à Jérusalem, c'est sur la croix la défiguration.
Ah, d'accord.
Donc il fallait que Jésus apparaisse transfiguré dans sa gloire divine, pour qu'ils aient le courage finalement de supporter et de comprendre plus tard quand il va être défiguré sur la croix, pour surmonter cela. Et après, 3 jours plus tard, il y a la résurrection. Donc Jésus qui apparaît à nouveau dans vainqueur de la mort et du péché, non plus dans une forme glorieuse, mais en même temps différente, puisqu'il traverse les murs, il apparaît, disparaît, et n'est plus soumis aux contraintes spatio-temporelles, on pourrait dire comme ça. Et puis il y a son élévation dans la gloire, l'ascension. Nous avons célébré il n'y a pas si longtemps que cela.
Effectivement. Alors, on va continuer un petit peu et on va parler de Pierre. Mm-hmm. Parce que Pierre, il semblerait que c'est le number one des apôtres. C'est un petit jeu de mots, hein. C'est pour embêter un petit peu. Alors, pourquoi Pierre est considéré comme le premier chef de l'Église? Alors,
c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier à avoir suivi Jésus, mais il fait partie des tout premiers. D'ailleurs, c'est Jésus qui finalement le choisit, il l'appelle au bord du lac de Tibériade, en mer de Galilée. Il lui dit, avec des textes de son frère, c'était un pêcheur de poissons, et il lui dit, avance au large et jette les filets. Il dit, on a passé toute la nuit à essayer de pêcher des poissons, on n'a rien trouvé, mais je vais t'écouter, je vais faire ça. Donc, jette le filet, il ramène tellement de poissons que c'est impossible, c'est une pêche miraculeuse. Et à ce moment-là, il se prosterne devant Jésus, lui dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pêcheur. On joue sur les mots. Et du coup, Jésus, un pêcheur qui commet des péchés, qui fait du mal, j'ai des choses à me reprocher.
Ouais.
Et Jésus lui dit, désormais, ne crains rien, désormais, ce sont des hommes que tu prendras dans ton filet de pêche. C'est-à-dire que Jésus fonde, et après, l'épisode que je viens de raconter, c'est-à-dire que à la confession de foi de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus bâtit son Église sur la foi de Pierre. Donc, plus tard aussi, Jésus dira, en quelques jours ou quelques heures de sa passion, j'ai prié Simon-Pierre, Satan vous a réclamé, et moi j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu reviendras, affermis tes frères. Et ce mot affermir les frères, c'est finalement le rôle de Pierre, d'être celui qui va être. C'est une personnalité très explosive, très spontanée. Dès lors que qui est pour vous, qui est le Fils de l'homme, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Moi, je donnerai ma vie pour toi. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie, de désir, en même temps qu'il ne connaissait pas ses limites et ses faiblesses. Et Jésus lui rappelle. C'est intéressant parce que ça veut dire que l'Église n'est pas bâtie sur des hommes prétentieux, des hommes qui ont la connaissance, ce sont des hommes qui ont des leurs fragilités, leur pauvreté, mais qui sincèrement aiment Dieu et veulent faire sa volonté. Et c'est ce que Pierre va apprendre tout au long de sa vie. Et on connaît l'épisode où Pierre a renié Jésus à 3 reprises. Non, non, je ne connais pas cet homme. Au moment de la passion. Et à la résurrection, quand Jésus est ressuscité, il lui donne l'occasion de se reprendre, de se racheter, en lui demandant à 3 reprises, Pierre, m'aimes-tu ? Et Jésus lui et Pierre de répondre, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime.
Et, pourquoi
et, Jésus, et Jésus le confirme, le dit, sois le pasteur, le berger de mes brebis. En faisant ça, Jésus donne à Simon-Pierre la fonction de chef de l'Église, de celui qui va affermir ses frères, et celui qui, quand il aura des successeurs, qui vont lui prendre sa relève, eh bien, vont être aujourd'hui ce qu'on appelle les papes. C'est-à-dire chef de l'Église.
Ah, d'accord. Donc c'était
le pape et le successeur de Pierre.
Donc Pierre était Simon Pierre ou Pierre était considéré, enfin, est considéré comme le premier pape. Alors.
De ma par abus de langage, on peut dire ça comme ça.
Ça veut dire quoi pape d'ailleurs ? C'est le père.
C'est un père. C'est une façon de parler de pape, okay. Pope.
Voilà. Parce que le premier pape, il était où ? Alors du coup Pierre, il était où ?
Alors du coup Pierre est mort à Rome, puisque dans l'élan de l'évangélisation, les disciples ont quitté Jérusalem, la plupart. On s'est allé un peu en tout le bassin méditerranéen, Thomas jusqu'en Inde même, ouais. et Pierre comme Paul se retrouveront finalement à Rome, et où Pierre va mourir et il sera crucifié tête en bas, comme c'est pour ça qu'on représente la croix de Simon-Pierre, une croix inversée, parce qu'il on dit par respect pour son maître Jésus qui est mort crucifié normalement, eh bien lui a souhaité mourir comme ça, de cette manière-là.
Et c'est lui qui a demandé à être crucifié ou c'est les Romains qui l'ont crucifié ?
Non, on l'a crucifié, mais bon, il a pu quand même au moins émettre l'idée de pouvoir choisir la position dans laquelle il serait crucifié, mais, visiblement.
J'ai une question toute bête, mais la croix inversée, je vois, c'est des légendes. Pourquoi les satanistes, entre guillemets, c'est quoi, ça vient d'où
Si vous leur demandez pourquoi les satanistes s'amusent à détourner les signes question, religieux.
Ça vient de ça.
Oui, ben Simon-Pierre, mais peut-être simplement, d'une manière aussi, plus que par rapport à Simon-Pierre, justement, parce que ça montre qu'ils ne connaissent pas la foi chrétienne, parce qu'ils ne savent pas que c'est une foi tout à fait normale. Mais c'est juste qui pour eux, c'est de mettre inversé la croix, c'est pour bloquer Jésus.
Moi, par exemple, je ne savais pas qu'il était crucifié et qu'on l'avait mis tête en bas. Il y a des choses des fois...
croix, c'est pour nous, c'est...
Jésus qui est comme ça, et l'autre, il est dans l'autre sens.
Et le frère de Simon-Pierre, André, est mort dans une croix en forme de X.
Ah oui, d'accord.
Comme pour le...
Comme ça.
C'est vrai qu'ils ont tous été crucifiés.
Pas tous, non. Quelques-uns, il y en a qui ont été.
C'était surtout ceux qui étaient du côté des Romains.
Il y en a qui ont été dépecés, d'autres qui ont été sciés en deux, d'autres qui ont
mais
été.
Mais chez nous, c'est un peu la même histoire. Non, les compagnons,
les Romains. Il faut vraiment avoir la foi.
Tous les compagnons, ils ont été subis.
Un peu comme les prophètes. Hein,
Tous les prophètes.
Pardon. On va continuer à monter dans le temps et on va aller voir les musulmans avec le prophète Mohammed. Hein, c'est ça. Pour parler des compagnons, c'est-à-dire que vous les appelez compagnons, c'est les Sahaba. On parle de calife. C'est quoi un calife et comment ils sont intervenus dans la vie du prophète Mohammed?
Alors déjà, avant de débuter tout cela, j'aimerais faire un petit rappel. Aujourd'hui, on a commencé l'année islamique à 10 jours, on est le 10 Muharram. Et donc, comme je disais à Mendel, aujourd'hui, tous les musulmans, ils jeûnent de manière surérogatoire. Donc, faire comme Moïse, Moussa, Moshe, donc qui a jeûné, selon nos traditions, lorsqu'il a été libéré, donc le 10 Muharram, et des griffes du pharaon. Voilà, aujourd'hui c'est un jour important pour nous aussi. Donc on voulait le signaler. Et aussi, une petite parenthèse aussi, on a quelqu'un d'un comité qui est décédé. C'est monsieur, je pense que tout le monde connaît, la pâtisserie Ayoub en ville, le gérant, je pense que tout le monde connaît ici. Donc je voulais présenter mes condoléances à la famille. Oui, donc pour revenir à notre sujet, donc les compagnons, ils sont très très importants. Donc il faut comprendre que quand le prophète est devenu prophète, il a eu la prophétie à 40 ans, la première personne à se convertir, c'était une femme, donc c'était sa femme, Khadija. Et ensuite, le premier homme à se convertir, c'était Abu Bakr, c'est-à-dire Abu Bakr, qui était son ami intime, et qui a tout donné littéralement pour la cause de Dieu finalement. Mmh. Voilà. Et donc, plus tard, la fille de Abou Bakr deviendra également, on y reviendra tout à l'heure pour les questions, l'épouse du prophète. Et il faut savoir qu'Abou Bakr, selon nos traditions, c'est le meilleur homme après les prophètes. Donc les prophètes, bien entendu, tous les prophètes, ils sont
au-dessus.
Mmh. Et après, le meilleur homme après tous les prophètes. Pourquoi ? Parce que, bon, selon nos traditions, bien entendu, ben, le dernier prophète, donc d'après une tradition, le meilleur des prophètes, et son compagnon, bien entendu, c'est le meilleur des compagnons. Et voilà. Et donc, il faut savoir qu'il y a une petite différence avec les chiites, par exemple, qui considèrent, par exemple, Ali, d'accord, le cousin et gendre du prophète, comme, on va dire...
Le successeur...
Voilà, un petit peu plus haut. Ils le mettent en première position. Donc, il y a une petite divergence là-dessus.
Avant Abou Bakr.
Ah oui, ouais. Donc certains ne reconnaissent pas la légitimité. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, du vivant du prophète, le prophète lui-même, il a déjà mis cet ordre, en fait. Donc, une des preuves que je peux vous donner comme ça, c'est que le prophète, c'est lui qui dirigeait toutes les prières de son vivant. À la fin, quand il était un peu mourant, il ne pouvait plus se mettre debout. Qui l'a mis devant lui ? C'était Abou Bakr. Donc, par exemple. Ensuite, deuxième chose, quand on parle de l'Hégire, l'Hégire a commencé il y a quelques jours. L'Hégire, c'est le calendrier musulman. C'est quand les prophètes, le prophète et les Mécois, ils ont quitté la Mecque, Makkah, pour aller à Madina, Médine. Donc, il faut savoir que le prophète, et les musulmans d'ailleurs, ils étaient extrêmement persécutés, parce qu'il faut savoir que c'était un petit groupe. Après, c'est pas forcément des gens influents, à part quand Omar, le deuxième calife, il s'est converti à l'islam. Donc ça aussi, c'est un grand chapitre. Sa sœur s'est convertie. Ensuite, bon, il y a eu une histoire. Donc, il faisait partie des grandes familles de la Mecque, etc. Donc, quand le prophète était persécuté, sa maison a été entourée. Et on voulait le tuer finalement ce soir-là. Et donc, ce qui fait l'exception, ce qui est extraordinaire avec Abou Bakr Siddiq, c'est que c'est lui qui l'a accompagné dans ce moment dangereux. D'accord ? Donc, c'est à peu près 500 km. Il faut comprendre qu'ils ont fait à pied, ils se sont enfuis finalement. Et surtout, Abou Bakr, c'était quelqu'un qui vraiment donnait tout dans la voie de Dieu. Et il laissait rien chez lui finalement. Par exemple, quand il est parti de chez lui, il a tout emmené. Il a dit, mais tu as laissé quoi ? Il a dit, j'ai laissé Allah et son prophète. Donc Dieu et son prophète est chez lui. Et même quand il y avait des offres, des appels aux dons, etc. Donc par exemple, le deuxième calife, Omar, il a dit, voilà, aujourd'hui, moi, je vais donner la moitié de ce que j'ai. Il a dit, je vais faire mieux qu'Abou Bakr Siddiq. Voilà, il y avait une petite compétition aussi. D'accord ? C'est autorisé dans les bonnes actions, bien entendu, sans jalousie, etc. Et... voilà, donc là, aujourd'hui, t'es tout fier. Il dit, voilà, moi, j'ai donné la moitié. Après, le prophète, il demande à Abou Bakr Siddiq. Il dit, voilà, mais toi, tu as donné quoi ? Il dit, j'ai tout donné. Il dit, tu as laissé quoi à la maison ? Rien. Mais c'est incroyable. Et donc, ensuite, on va pas revenir dans cette histoire-là, mais quand ils se sont enfuis de Makkah, ils sont partis dans une grotte, d'accord ? Ils se sont réfugiés dans la grotte, etc. C'est un long récit. Mais en tout cas, juste ce moment-là, donc... l'émigration de la Mecque à Madina, c'est suffisant pour démontrer la grandeur d'Abou Bakr Siddiq. D'ailleurs, Omar, le deuxième calife, il plaisantait tout le temps avec Abou Bakr Siddiq, parce qu'Omar était connu pour être un grand adorateur. Il a dit, juste, moi, prends toutes mes récompenses d'adoration, juste donne-moi une seule chose, c'est la récompense de cette nuit-là. Il a passé avec le prophète, parce qu'il a porté le prophète sur son dos, etc., etc. Enfin, il a protégé sa vie finalement. Voilà, donc ça, c'est une petite parenthèse. Voilà.
Donc là, on a Omar.
Donc on a Abou Bakr,
et après on a
Ousmane et Ali.
Et Ali, d'accord.
Donc faut savoir qu'en islam, il n'y a pas de. Je pense que dans toutes les religions, je suis passé comme ça aussi. Il n'y a pas d'exception familiale ou comme la royauté, etc. Non, c'est vraiment mérite, c'est la piété, la science. etc. etc. Et c'est quelque chose que tout un chacun on doit prendre en compte, même dans la gestion peut-être de nos administrations, de nos institutions, etc. Le lien familial, il est important, certes, mais c'est pas, selon nos traditions, une caractéristique qui permettrait de légitimer, on va dire, la position de quelqu'un. Donc, bien entendu, voilà.
La méritocratie.
Voilà, exactement.
Et donc, ok, et là, on va continuer un petit peu sur l'égir, c'est-à-dire qu'Abou Bakr a joué un rôle. Enfin, c'était quoi son rôle pour l'égir?
Donc voilà, je vais expliquer
le mot égir, ce que ça veut dire.
L'égir, ça veut dire hijri. Donc il faut savoir que c'est l'immigration finalement. Donc muhajir, c'est-à-dire partir. Et ils ont émigré, voilà, donc en l'an. Alors, c'était en quoi? En 622, c'est ça? De notre ère. Et du coup, enfin, du calendrier grégorien, et c'est l'émigration, la migration du prophète salam, donc de la Mecque vers Médine. Et donc, c'était le seul, comme je viens d'expliquer il y a quelques minutes, le seul compagnon à accompagner le prophète dans ce voyage qui était périlleux. Ils étaient poursuivis, etc. Ils étaient réfugiés dans une grotte. Enfin, l'histoire est longue. Et donc, c'est lui, pendant 3 jours, donc, ils sont restés dans la grotte et ils ont échappé donc aux Quraïchites, donc les gens de la Mecque, qui il a fait preuve du courage et le Allah, donc Dieu, il s'adresse directement dans le Coran, dans le Coran à Abou Bakr et il dit: ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Voilà.
Bien, on va faire une petite pause musicale et on va revenir ensuite sur nos compagnons. La réunion des religions est aujourd'hui toujours en compagnie de Mendel Siboni, notre rabbin.
Un honneur et un plaisir.
Merci, c'est votre émission, hein, mon cher ami. Hein. Le grand rabbin de La Réunion, ensuite le père Payette, père de la délivrance, c'est bien ça ?
Curé à la paroisse Notre-Dame de la délivrance.
Notre-Dame de la délivrance, c'est vrai. Curé à Notre-Dame de la délivrance. Et vous ? Et Mohamed Bana, imam de Saint-Denis. Alors, on va revenir un petit peu sur le roi David. Vous connaissez ça,
Daoud.
Daoud. Alors, on va parler de... Il y avait des hommes vaillants, c'est comme ça qu'on les appelait. Hein. Et pourquoi était-il si important? Qui était le roi David? Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, ça doit être une grande histoire, ça aussi.
C'est une grande histoire du roi David. Mais c'est vrai que si on parle des prophètes, il faut différencier les prophètes et les rois.
D'accord.
C'est pas la même chose.
Prophète ou compagnon ou
hein? Non, il y a des compagnons des prophètes qui sont aussi prophètes.
Ouais.
Comme Eliaou et Elisha, disait qu'il va l'accompagner, qu'il va devenir prophète lui-même. Comme Yehoshua, qui va prendre la place de Moshe, qui va devenir prophète lui-même. Mais il y a eu des étapes dans le peuple juif. Et il y a eu la première étape, donc c'était, il y avait Moshe, c'était le prophète, il n'y avait pas de roi. Yehoshua qui a repris la place. Ensuite, Shmuel, Samuel. Il y a eu Élie d'abord. Pas Élie, Eliaou, hein. Un autre Élie, écrit d'une autre manière. D'accord. Ensuite, il y a eu Shmuel, Samuel. Et à partir de Samuel, c'était prévu déjà que le peuple juif doit avoir un roi. Il fallait nommer un roi. C'est écrit dans la Torah. Après, ça s'est mal passé au moment où les juifs réclament d'avoir un roi. Mais c'était prévu. Donc, petite parenthèse, mais... Donc, dans le peuple juif, il y a un roi. Il y a un prophète, chacun a un rôle différent. Ce n'est pas la même chose. Et ensuite, il y a le grand prêtre, qui a aussi un rôle différent. Mais le Kohen Gadol, le grand prêtre, le roi et le prophète. Chacun a son rôle. Le prophète, on va dire qu'il est au-dessus de tous. C'est le prophète, il parle à Dieu. Mais il ne peut pas être au-dessus du roi aussi. Et le roi ne peut pas être au-dessus du prophète. Chacun dans son
qui trouve
dans
leur son place, domaine. Quoi.
Voilà.
Ouais. Du coup, de votre tradition, David.
Et David, c'est un roi.
Il était un roi. Et Salomon.
Salomon, c'était un roi aussi.
Aussi.
C'était pas un prophète. Il y avait des prophètes qui les accompagnaient, qui étaient là pour accompagner le roi, justement. Pour les décisions du roi. Le roi, il demandait au prophète qu'est-ce que je fais, comment je dois faire. Le premier roi, ça a été Saoul, qui a été accompagné par Samuel. Ensuite, le deuxième, David, aussi par Samuel. Mais c'est pas des prophètes, même si ils ont un niveau spirituel et peut-être que Dieu leur se révèle à eux, certainement, pas peut-être, mais ça reste que ce n'est pas des prophètes. Ils vont pas dire des prophéties au peuple. Le prophète, c'est le prophète. Et Mohamed, tout à l'heure, il parlait, c'est vrai, du lien familial. Et alors, effectivement, le prophète, ça peut être quelqu'un que Dieu a choisi. C'est la méritocratie où c'est Dieu qui choisit, ça va être lui le prophète ou un tel, il y a où, etc. Et pour le roi, c'est Dieu qui a choisi. Le premier roi, Saoul.
C'est ce qu'ils disent à peu près. Voilà. Le roi, c'est resté...
Mais après, ça a été le roi David. Et à partir de ce moment-là, ça a été toujours les enfants du roi David. Ça pouvait... Et là, Dieu, il fait une promesse à David que, effectivement, ça va être toujours ses enfants qui vont être rois. On ne peut pas choisir un autre roi.
Donc cette tradition de dire qu'un roi a un droit
c'est de
divin...
C'est de père en fils.
C'est un droit divin, c'est...
C'est pas un droit divin. Mais en tout cas, c'est son fils qui est prioritaire, pas qui est prioritaire. Qui doit être le roi? Un de ses enfants. Ça va passer par le sang. On ne peut pas prendre un roi qui n'est pas le fils et de la descendance aujourd'hui du roi David. Au début, c'était Saoul, mais après Saoul, il a perdu, on va dire, il n'a pas eu le mérite que ce soit ses enfants qui soient rois. Dieu a passé ça au roi David et à ses enfants, et là, ça ne bouge plus.
Mais c'est toujours le cas,
toujours le cas, non, on n'a plus droit aujourd'hui.
Oui.
Si jamais on devrait avoir un roi.
Il n'y a plus de monarchie, mais.
Voilà, si jamais on devrait avoir un roi, il doit être de la descendance du roi David.
Ils ont toujours gardé la famille royale, etc. Enfin, c'est toujours là.
On peut savoir à peu près quelqu'un. Pas tout le monde. Peut-être moi, je suis la famille du roi David, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, il y en a on peut savoir qu'ils descendent du roi David. Après, on ne peut jamais être sûr, hein, mais on peut savoir.
Il faut monter très haut.
Après, on sait qu'on est ou de la tribu de Juda. Donc, le roi David, c'est de la tribu d'Yehuda. Ou de la tribu de Benjamin. On est une des deux tribus aujourd'hui, le peuple juif aujourd'hui. Okay. Donc, Voilà, une chanson de
Judas, de Judas qui a trahi
non, rien
Jésus,
avoir,
Jésus
non,
n'a rien à voir.
Du fils de.
Pas qu'a trahi, entre guillemets.
C'est un prénom après. Donc,
d'accord. Fils de Jacob.
Quatrième fils de Jacob, voilà. D'accord. Que le roi David, il descend de cette tribu. Donc c'est vrai que le roi David, c'est un roi, c'est pas un prophète. Il était accompagné du prophète Shmuel qui les accompagnait. Et donc chacun a son rôle. Voilà, après le roi David, il a écrit les psaumes, peut-être quand un prophète même. Niveau, c'est pas...
Il a été guidé par le prophète. Oui.
Guidé par Dieu aussi, mais c'est pas un prophète. Et donc lui, il avait effectivement des hommes de confiance qui ont depuis le début, qui ont cru en lui, surtout au début où ça s'est mal passé avec le roi Shaoul. Et donc le roi Shaoul, il voulait tuer David. Et donc là, David a dû s'entourer de personnes qui faisaient confiance en lui, qui savaient qu'il avait été choisi par Dieu pour remplacer le roi Shaoul. Et donc ils ont accompagné le roi David tout au long de sa royauté, mais sans être des prophètes. C'était pas des compagnons de prophètes comme on peut retrouver ailleurs. C'était des hommes de confiance.
C'est quoi qu'on appelle des hommes vaillants alors?
Des hommes de confiance, c'est ça. Des hommes vaillants qui allaient faire la guerre avec lui, qui l'accompagnaient, qui étaient là pour le protéger au début quand Shaoul il voulait le tuer. Voilà, il s'accompagnait de ces personnes-là.
Ah, d'accord.
Après, le prophète à ce moment-là, c'était Shmuel. Lui, il était prophète. Mais après, c'est vrai que dans la Torah, c'est quand même écrit que pour le roi, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre le fils. Mais pour les prophètes ou pour le grand prêtre aussi, parce qu'on parle du grand prêtre, c'est aussi un autre rôle, il y a priorité au fils. Voilà, il est prioritaire. Par exemple, le grand prêtre, il décède. On va choisir un nouveau grand prêtre, un nouveau Kohen Gadol. Son fils est prioritaire.
Oui, s'il a une formation.
Voilà, parce qu'on le voit avec Aaron. Oui. Aaron, c'est son fils Eliezer qui a repris. Il était prioritaire, Lazare.
Yes, donc.
Il était prioritaire pour reprendre. Mais non, si le fils du grand prêtre, il n'est pas apte, parce qu'il n'a pas le niveau, parce qu'il ne veut pas, ou simplement il n'a pas le niveau spirituel, on peut choisir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas obligatoire. Pour le roi, c'est obligatoire.
Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant qui...
Non, tout ça, on parle... Aujourd'hui, il y a des prêtres. La famille, elle existe. La famille Cohen, Lévi, elle existe. Il n'y a pas de grand prêtre, ni de petit prêtre.
Dans votre communauté, chez les Juifs, il n'y a pas une personne qui représenterait un petit peu cette personne-là?
Il y a des Cohen, plein de Cohen, mais c'est vrai qu'on leur doit, entre guillemets, du respect. Ils ont quelques privilèges.
Le nom Cohen.
La famille Cohen, Cohen. Monsieur qui s'appelle Cohen.
Ça veut dire quoi, Cohen?
C'est le nom de famille.
C'est le nom de famille. Donc, David, il s'appelait Cohen ?
Non, David est de la tribu de Yehuda.
Yehuda. Et Cohen, c'est ?
Cohen, c'est le prêtre. C'était une autre famille.
Lévi.
La famille de Lévi, la famille d'Aaron.
Donc, Lévi Cohen, lui, il a gagné le gros lot, lui.
Quand t'es Cohen, t'es automatiquement Lévi, parce que tu viens de la même tribu. Mais effectivement, là, c'est de naissance. Tu peux pas. Après, pour être grand prêtre, là, c'est quelqu'un de la famille Cohen, bien évidemment.
Ouais.
C'est pas obligé le fils, ça peut être quelqu'un d'autre. Si le fils, il peut pas. On parlait de.
Et c'est celui qui s'appelle Eli Cohen, celui-là, il est. Il y en a des Eli Cohen, non ? Ça existe ?
Eli Cohen. Oui, c'est un prénom, Eliaou. Ouais. Mais voilà, après Cohen, c'est un nom de famille, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus le temple. Donc,
Non, mais ceux qui connaissent, ils savent la résonance, l'importance de ce nom-là.
Bien sûr, d'ailleurs, ils ont des lois à eux. Par exemple, ils n'ont pas le droit de se marier avec une divorcée, par exemple.
D'accord.
Cohen, il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée.
Non.
Ouais, ils ont plusieurs lois, ils n'ont pas le droit de rentrer dans un cimetière.
Ah bon ?
Ouais.
Quel cimetière ?
Un Cohen ne peut pas rentrer dans un cimetière.
Quel cimetière ? Les cimetières juifs. Ils ont le droit, ça ?
Ils n'ont pas le droit, non ?
Ah bon ?
Pas rentrer dans un cimetière. Pourquoi ? Parce que c'est des Cohen, ils n'ont pas le droit de s'impurifier.
C'est votre cimetière.
Hein ? Ouais, mais ça change rien.
Bon, ok. Non, mais après, on ne comprend pas la jurisprudence.
Justement, il y a des jurisprudences, comme tu dis, qui donnent.
Bon, après, on a digressé sur les prophètes, mais.
Un jour, on ira voir Mendel, il va nous faire un petit cours.
C'est bien, voilà, pour expliquer un peu la différence entre le prophète, le grand prêtre.
Ouais.
Et
justement, parce que comme le roi David, lui, il a été guidé
par le prophète.
Par le prophète, c'est ça.
Mais lui-même, il n'était pas prophète.
Ouais, ok, d'accord. Les catholiques. Vous avez Jean, l'évangéliste.
Oui.
Ça te parle, ça ?
Oui.
Pourquoi est-ce qu'il a appelé le disciple que Jésus aimait ? Qui est Jean ? Parce qu'il me semble qu'il y a l'évangile selon Jean, etc. On l'entend des dizaines de fois quand vous faites vos prêches, là. Alors, qui est ce Jean ?
Ben, Jean, d'abord, Alors, il y a plusieurs interprétations. Et est-ce que Jean, l'évangéliste ou l'apôtre, est le même que Jean, le disciple que Jésus aimait ? Il y a plusieurs hypothèses. Moi, je suis de ceux qui aiment bien y voir la même personne. Mm-hmm. Donc on va partir là-dessus. D'accord. Mais ça se dispute encore hein, chez les théologiens, les exégètes, ceux qui étudient la Bible. Donc le Jean, l'apôtre Jean, disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire c'est il est le frère de Jacques, dit le majeur, le grand, puisque et comme Pierre et son frère André, eh bien ils sont pêcheurs sur le lac de Tibériade. Et tout comme Jésus, au même moment où Jésus appelle Simon, qui deviendra Pierre, et André à le suivre, eh bien il appellera aussi Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Et donc ils sont d'ailleurs plutôt apparemment d'un tempérament assez fougueux, et parce que Jésus les appellera les fils du tonnerre. Alors ils sont un petit peu ambitieux même, parce que eux-mêmes ou leur mère essaient de jouer un petit peu des coudes pour essayer de placer les deux frères, donc Jacques et Jean, à la droite et à la gauche de Jésus lorsqu'il viendra dans sa gloire. Et Jésus leur révèle que ces places leur sont déjà attribuées et qu'il ne lui appartient pas de les distribuer à qui que ce soit. Par ailleurs, il les invite, tout comme il le fera pour Simon-Pierre, nous l'avons dit tout à l'heure, à ne pas considérer la gloire des hommes, la domination, le pouvoir, mais à être comme le maître, c'est-à-dire Jésus, dans un esprit de service. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, donner ma vie en rançon pour la multitude. Et le disciple du royaume, donc les apôtres, eh bien, doivent aussi être dans l'esprit de service et non pas faire sentir leur pouvoir aux autres. Bien que Jésus, les ayant choisis, eh bien, leur a donné une certaine autorité, et puisqu'ils vont être, la foi de l'Église est bâtie sur la foi de Pierre, je disais, mais on pourrait dire aussi, avec la foi de Pierre qui parle au nom des apôtres, la foi des apôtres. Mm-hmm. Donc, c'est donc et Jean, étant comme apôtre, eh bien, étant, je disais aussi, de ce petit cercle très concentrique, très proche de Jésus, il y a Pierre, Jacques et Jean, on pourrait inclure aussi André, donc les quatre premiers disciples, on pourrait dire, eh bien, est très proche de Jésus. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais il semblerait que Jean est... Alors, on dit aussi qu'il était peut-être le plus jeune. Souvent, d'ailleurs, dans les représentations artistiques, on le représente imberbe, donc voilà, il est très jeune, parfois comme un adolescent ou à peine sorti de l'adolescence, un jeune adulte. Et donc, il aurait été, certes peut-être un peu fougueux comme son frère, comme pour pouvoir un peu ambitieux aussi, mais finalement très sincère et très attaché à Dieu. Et c'est ce que Jésus a repéré chez lui, cet amour profond et cette prédisposition peut-être à entrer dans la compréhension profonde des choses du ministère. Mmh. C'est lui, par exemple, quand Jésus sera ressuscité, eh bien, alors déjà auparavant à la Sainte Cène, on connaît tous cette scène de Léonard de Vinci,
le repas,
oui. Oui. On voit Jésus à table avec ses 12 apôtres, et on représente souvent un personnage qui se penche sur le côté, la poitrine de Jésus,
oui.
Et ça représente en fait une scène de l'Évangile où Simon-Pierre dit, parce que Jésus vient de déclarer que quelqu'un parmi ses disciples va le trahir, et ce sera Judas. Et Simon-Pierre de dire à Jean qui était à côté, eh bien, demande de qui il s'agit. Et donc il se penche sur le côté, il a reposé sur la poitrine du maître. Et symboliquement, c'est une manière aussi de dire, et Jésus va lui révéler que c'est celui à qui il va donner la bouchée de pain, et donc ce serait Judas. Mais c'est celui qui finalement se penche sur le cœur de Jésus, c'est-à-dire symboliquement celui qui essaie de comprendre ce que le Seigneur dit, d'entrer dans la profondeur des choses, du mystère, et qui peut-être avant les autres va comprendre, notamment à la résurrection, lorsque Marie-Madeleine, qui est la première témoin de Jésus ressuscité, eh bien, va annoncer, avant qu'elle n'ait vu Jésus, que le tombeau est vide, elle va s'adresser à Simon-Pierre et à Jean.
Mm-hmm.
Ça montre aussi leur autorité dans le groupe des disciples. Et ceux-ci vont courir vers le tombeau, Jean étant le plus jeune, probablement, en tout cas court plus vite que Pierre, et arrive au tombeau, il n'entre pas, il laisse Simon-Pierre entrer, constater, donc il laisse la primauté à l'apôtre Pierre, comme chef de l'Église peut-être, et ensuite il entre lui-même et il voit simplement le linge disposé là, et plus de Jésus, plus de corps. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il vit, mais il n'a juste vu que l'absence du corps,
mmh.
Et il crut. À ce moment-là, il comprend que Jésus, et il croit que Jésus est ressuscité, avant tous les autres quelque part. Et c'est celui qui va reconnaître, lors de l'épisode de la pêche miraculeuse, deuxième pêche miraculeuse après la résurrection, là où Simon, Jésus va demander à Simon-Pierre, m'aimes-tu ? Et lui confier son église. C'est lui qui va reconnaître le maître et le dire à Simon-Pierre. C'est lui. Donc voilà, on peut dire que Jean a été l'un des piliers de l'église, comme Simon-Pierre, Jacques et finalement les autres apôtres. Et en plus, il a aussi cette particularité d'avoir écrit cet évangile, le quatrième évangile, qui, à la différence des trois autres, Matthieu, Marc et Luc, eh bien, reprend des éléments communs, mais aussi donne des éléments assez spécifiques et avec une profondeur théologique très importante.
Bien, on va finir...
Je termine juste en disant qu'il y a une petite chose que les gens connaissent aussi Saint Jean, parce que c'est lui qui a écrit l'Apocalypse.
Ouais. Ah oui, oui. Okay. Ça, on reparlera de l'Apocalypse, tiens, ça c'est une bonne idée ça.
Voilà, mais... Non, il n'y a même pas besoin de questions, je voulais finir, de toute façon il ne reste plus beaucoup de temps.
Oui, non, mais je voulais juste que tu nous parles d'une bataille qui est quand même très très importante.
La bataille de Bab, c'est une bataille où il y a eu 313 musulmans contre 1000 personnes qui voulaient s'en prendre aux musulmans, donc c'est une bataille plutôt défensive. Et où Dieu, donc Allah, il donne une victoire écrasante malgré les disparités matérielles surtout. Mmh. Et voilà, donc c'est ces compagnons là, ils ont un degré spécial. Mais pour finir, aujourd'hui c'est vendredi, du coup il y a la prêche du vendredi. De la deuxième partie de la prêche, on nomme tous les vendredis les 10 compagnons qui vont entrer. Ce sont des 10 compagnons qui, de leur vivant, ont eu la nouvelle du paradis. Donc c'est assez exceptionnel. Donc dans cette ordre-là, donc Abou Bakr, Omar, Ousmane, Ali, etc., etc. Mm-hmm. Donc ça aussi, bon, c'est aussi une explication au califat en fait finalement. Okay. Hein. Mais en tout cas, tous les vendredis, ils sont nommés. D'accord. Et ensuite il y a aussi des hadiths des paroles du prophète. Voilà, en gros les compagnons c'est vraiment les successeurs, on va dire, du prophète finalement, et même des prophètes je pense dans toutes les traditions. C'est eux qui ont permis de faire vivre les traditions dans toutes les religions, de nous faire parvenir les différents livres,
de nous permettre, etc., de nous réunir aujourd'hui. C'est-à-dire que les compagnons ont apporté juifs en disant voilà, vous allez continuer à avancer en faisant telle et telle chose. Les catholiques, il y a eu Pierre qui avait toute sa bande, on va dire, tous les autres apôtres qui sont partis dans le monde entier pour
on n'en avait pas parlé d'ailleurs.
Oui. Et les musulmans c'est pareil, hein, ce sont ces compagnons là qui sont partis dans le monde
entier, jusqu'en Chine,
la lune, hein, on sait jamais, hein, mais bon.
Ça, je sais
c'est-à-dire
pas.
Que l'univers est ouvert, hein, grâce à ça, grâce à ces personnes, on a des façons de faire. Par exemple, pour la famille Cohen, qu'on connaissait pas, mais que maintenant on connaît. On a des catholiques qui mangent pas si. Je suppose qu'il y a des choses qu'ils font pas, mais bon, je pense que c'est des plus simples.
Hein,
donc... Mais voilà. Donc, quand les gens vont à l'église, ils apprennent des choses. Et la vie, les hadiths, la façon de vivre.
Le Coran, tout simplement.
Et le Coran.
Parce que si c'était pas là, ben.
Ok, donc voilà, je vous remercie d'être encore venu cette fois. Je vous souhaite à tous un bon Shabbat à partir de.
Ah ben oui.
Bon Shabbat, bon jument pour tout à l'heure.
Et bon jeune. D'ailleurs, bon courage à tous qui se passent le brevet là.
Pour Mohamed.
Et puis sais que notre père.
Fini de jeûne.
La messe à 11h30 à la délivrance.
Donc il y a la messe pour les catholiques à 11h30 à la délivrance qui est. Faite par notre père Payette.
Il arrive vite alors.
Bonne semaine.
Bon courage aux collégiens, ceux qui passent le brevet.
Bon courage à tous ceux qui passent les examens aujourd'hui et cette semaine. Au revoir.
Au revoir. Allez, merci beaucoup.